Alors nous sommes dans le leitmotiv, dans le sujet général des démonstrations d'amour et d'affection. La dernière fois, on avait parlé du phénomène, du caractère inconscient, des effets pervers, des carences affectives, des manques en fait de démonstration d'amour et d'affection, pour répondre peut-être à des parents qui pourraient peut-être se poser la question et se dire que bon, moi, dans mon éducation, je n'ai pas trop senti de démonstration d'amour et d'affection et pourtant, bah, vous voyez, je suis là, tout va bien. J'ai pas trop mal réussi dans la vie, etc., etc. Alors on avait lu en fait un témoignage poignant qui mettait en évidence que très très souvent les effets pervers de ces carences affectives n'étaient pas du tout conscients. À travers ce témoignage de ce jeune homme, la lettre qu'il avait envoyée au Rav, qui est très émouvante, s'intitulait « Lel HaSeder », la nuit du Seder, le soir du Seder de Pessah, où là en fait au début il n'était pas du tout d'accord avec le Rav, lorsqu'il était venu en fait pour des problèmes de tristesse qui venaient de façon subite, qui pouvaient maintenant exploser par des éclats de sanglots. En tout cas, il avait envie d'éclater en sanglots quand il voyait certaines scènes en fait de démonstration et d'amour et d'affection autour de lui et ne comprenait pas d'où ça venait. Au début, le jeune homme en question, il n'a pas du tout adhéré avec en fait le diagnostic du Rav. Et pour finir, c'était exactement ça, c'était en fait en plein dans le mille. Donc ça nous a permis aussi de mettre en évidence encore une conséquence des problèmes de carence affective, des problèmes de manque de démonstration d'amour et d'affection dans le domaine de l'éducation des enfants, quand l'enfant était petit et quand il a grandi, c'est en fait la sensation de tristesse, la sensation en fait de solitude, d'isolement. C'est clair que si vous ressentez ce genre de choses, la première des choses à faire, c'est regarder en arrière et d'essayer de voir. Alors, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, parce que en fait, le modèle que nous, on a vu, pour nous, c'est en fait, entre guillemets, la norme, c'est ce qui est normal. Je pense que déjà à travers les cours qu'on a donnés, vous vous rendez compte qu'en fait la norme telle qu'elle devrait être en fait, c'est que les démonstrations d'amour et d'affection envers l'enfant, ils doivent être à profusion, ils doivent être de façon inconditionnelle. Et donc dans ce sens-là, je pense que c'est assez rare dans la société moderne. On va aussi expliquer pourquoi dans la société moderne il y a particulièrement un problème. C'est rare de pouvoir dire, moi dans ma maison, j'ai reçu vraiment toute l'amour et l'affection dont j'avais besoin. Parce que c'est un besoin qui est très très grand et qui a surtout besoin d'être démontré. Maintenant, j'aimerais éveiller votre attention sur une question que beaucoup de parents pourraient se poser. Et en fait, la question, on va commencer cette question en mettant en évidence quelque chose qui est assez troublant. C'est que, en fait, dans la plupart de ces témoignages, les témoignages qu'on a donc d'enfants qui ont grandi, qui sont devenus des adolescents, qui ont souffert en fait de ce manque d'amour et d'affection, et bien en fait dans la plupart de ces maisons, lorsqu'on allait voir les parents et parler avec les parents, on s'est rendu compte que non seulement on parlait de parents qui aimaient profondément leurs enfants, mais en plus qu'ils étaient beaucoup sacrifiés pour leurs enfants. Et en fait les parents, ils ont tendance à se poser la question, et vous pouvez très bien poser la question, moi je sais combien j'aime mon enfant, pourquoi est-ce que c'est tellement important de les montrer en permanence? Pourquoi il faut toujours que je le prouve? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est évident? D'autre part, lorsque l'enfant voit tout ce que je peux faire pour lui, il voit tous les efforts que je fais pour lui, on parle maintenant quelquefois de parents, surtout de pères, de papas, qui travaillent d'arrache-pied, jour et nuit, pourquoi est-ce qu'ils font tout ça? Principalement pour leurs enfants, principalement pour leurs femmes, principalement pour construire un attide, un futur dans leurs enfants. J'ai été confronté, Rabotai, à un véritable cas. Jeune fille qui est venue en Tipoul et qui avait énormément souffert de cette sensation de ne pas être aimée par son père. Et en fait, le père, effectivement, c'était exactement ce cas de figure. C'est qu'il travaillait, il avait travaillé en fait tellement d'arrache-pied lorsque, en fait, cette jeune fille était petite, était enfant, qu'elle ne voyait pratiquement pas son père. Je suis pratiquement convaincu, je n'ai pas parlé avec le père, mais je suis pratiquement convaincu que si je pose la question au père, mais pourquoi est-ce que vous avez travaillé tellement dur? Le père va me dire, mais c'est évident, c'était pour ma fille, pour mes enfants, pour ma femme. Donc vous voyez ici qu'il y a une incompréhension et en fait la question, en fait, elle peut se soulever. Même plus que ça encore à Botaï, on va maintenant se servir vraiment de la phrase, de l'enseignement de Rabbi Noutam qu'on avait pris en fait en grand titre. Lors de, je crois que c'était le cours d'introduction sur démonstration d'amour et d'affection, Mashe Yotse Minalev Nirtna Selalev. Non, en fait, excusez-moi, c'était sur l'importance de l'authenticité dans le domaine de l'éducation des enfants. Rabbi Noutam nous enseigne ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. Donc, a priori, on pourrait se poser la question, mais je ne comprends pas. Si maintenant, ce qui est ressenti dans le cœur est aussi ressenti par l'autre, c'est-à-dire, si vraiment j'aime l'autre, l'autre va le sentir. Et si vraiment j'ai de la haine pour une personne, la personne aussi va le ressentir. Alors pourquoi est-ce que dans le domaine de l'amour et l'affection, on ne pourrait pas compter là-dessus? J'aime tellement mes enfants. Bah, normalement, ils devraient le ressentir. De la même façon qu'on avait dit que dans l'authenticité, Eh bien, l'enfant sentait quand il y avait un comportement qui était faux chez les parents. Pourquoi est-ce que l'enfant n'est pas capable de sentir lui-même que ses parents l'aiment? Surtout quand c'est tellement vrai, quand c'est tellement profond. C'est la question à laquelle on va s'efforcer en fait de répondre. Pour cela, il va falloir qu'on donne une définition et qu'on essaie d'approfondir un petit peu sur la définition de l'amour. C'est quoi l'amour et c'est quoi l'affection? Eh bien, sans entrer dans des considérations et dans des pilpoulimes philosophiques compliquées, on va essayer de donner une définition qui est très simple. L'amour, en fait, c'est, on va se contenter de dire que c'est l'empathie. À partir du moment où je suis triste quand quelqu'un il est triste, je suis triste avec lui, je suis triste dans sa tristesse, et quand je suis joyeux quand la personne est joyeuse, parce que ça me rend joyeux, ça me rend joyeux que la personne est joyeuse, c'est un signe, en fait, c'est une expression en fait d'amour. Donc on peut dire que, par définition, l'amour, en fait, c'est une sorte de fusion. Lorsqu'on fait un avec une personne, on peut dire qu'on est arrivé à un degré d'amour qui est extrêmement haut. À ce sujet, il y a une très belle histoire du Rav Arié Levin, qu'une fois il était rentré chez le médecin avec sa femme. Et en fait, il était rentré avec sa femme parce que sa femme avait des douleurs, avait des douleurs à la jambe. Et quand il est rentré chez le médecin, tout à fait spontanément, il a dit au médecin, « Bonjour docteur, nous avons mal à la jambe de ma femme. » Il était déjà bien âgé. Nous avons mal à la jambe de ma femme. C'est-à-dire que lui, même si physiquement, bah évidemment, il ne pouvait pas ressentir la douleur de sa femme, mais psychologiquement, il ressentait la douleur de sa femme peut-être autant que sa femme, peut-être même plus. Ça, on peut dire que c'est vraiment une définition de l'amour. Si la définition de l'amour, c'est effectivement donc une fusion, une empathie qui est totale, alors évidemment, après, il y a des degrés, il y a des niveaux dans l'amour. Alors, donc, on peut partir du principe que l'antithèse de la fusion, qui est la séparation, est en fait l'antithèse de l'amour. Alors attention, ça ne veut pas dire que si je suis obligé de me séparer de quelqu'un, ça veut dire que je ne l'aime pas. Mais ça veut dire que dans le ressenti, dans ce que moi je ressens, lorsque je sens qu'une autre personne est en fusion avec moi, alors je sens de l'amour. Et lorsque je sens une séparation, eh ben en fait je sens une carence d'amour. Au niveau du ressenti, d'un point de vue émotionnel, on peut dire que c'est l'antithèse. D'un point de vue mental, ce n'est pas forcément l'antithèse. Parce que quelquefois, je suis obligé de me séparer d'une personne, mais pas parce que je ne l'aime pas, parce que je suis obligé. Mais en ce qui concerne le ressenti de l'être humain, on peut dire que la séparation, c'est l'antithèse de l'amour. Et dans ce sens-là, Rabotaille, on va comprendre quelque chose d'extraordinaire. L'être humain, avant même d'arriver sur Terre, a vécu deux séparations absolument traumatisantes. La première séparation, ça c'est pour les gens... Déjà, des gens qui sont croyants, Baruch HaShem, on s'adresse nous, à tout le public. Vous allez voir qu'il va y avoir une deuxième explication. Zohar HaKadosh nous explique que la Neshama de l'homme, qui est en fait le propre, l'essence de l'homme, avant de descendre ici-bas sur Terre, elle était complètement en fusion avec la Shrina, avec Dieu, avec HaKadosh Baruch Hu là-bas, dans les mondes supérieurs. Et là-bas, elle était dans une sensation de bonheur, d'amour qui était extrême. À partir du moment où cette Neshama va être catapultée ici-bas sur Terre, Zohar HaKadosh nous dit que c'est une grande souffrance. C'est une séparation terrible. Parce que la Neshama, elle est tellement bien avec HaKadosh Baruch Hu. Pour ceux peut-être qui ont vu des témoignages sur ceux qui ont vécu une mort clinique, ils témoignent tous de ce phénomène. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont vu cette lumière et ils sentaient un amour absolument extraordinaire de cette lumière qui leur donnait envie d'aller là-bas. Mais d'un autre côté, pour certains, ils se rappellent qu'ils ont ici des femmes, une femme et des enfants, et qu'ils ont des gens qui ont besoin d'eux. Donc c'est ça qui va en fait les attirer et les pousser en fait à vouloir revenir en bas, ici-bas sur Terre. Ça, si vous voulez, c'est le premier traumatisme en fait de séparation que l'être humain a vécu avant même qu'il rentre dans un corps, parce qu'on parle ici de sa neshama. La deuxième séparation, pour ceux qui sont plus un peu les pieds sur Terre comme ça, c'est la séparation à bout de taille du bébé, l'embryon. La séparation du bébé avec la mère, c'est un traumatisme terrible pour l'enfant. Déjà pour la mère aussi, on explique comme ça le phénomène du baby blues. Comprenez, Rabotaille, que l'enfant, avec les femmes comprendront très bien dans ce que je dis, c'est que l'enfant, il fait partie intégrante de sa mère. C'est marqué dans la Gemara, Ubar Yerechimo. Le fœtus, c'est comme la cuisse de sa mère. C'est un de ses membres. Donc cette séparation aussi, elle est extrêmement pénible d'un point de vue physique, mais aussi d'un point de vue psychologique pour le bébé comme pour la mère. Donc en fait déjà, on arrive ici-bas avec déjà cette sensation de séparation. Donc là, on peut mieux comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une nécessité en permanence de démontrer de l'amour et de l'affection pour que la personne qui est en face de moi le sente. Parce qu'à la base, il y a déjà une carence. Parce qu'à la base, il y a déjà ce traumatisme de ces deux séparations qui font que l'être humain a une sensation générale de se sentir seul. Et je vous donne maintenant une preuve à cela, si vous n'êtes pas encore convaincu par cette démonstration, c'est le phénomène de la surprise. Regardez, si on fait mon anniversaire, une fête d'anniversaire, on peut dire qu'une fête d'anniversaire, c'est une démonstration d'amour et d'affection. Ouais. Si on me prévient, ça me fait plaisir. Si on me fait la surprise, il y a des gens qui peuvent arriver à en pleurer d'émotion. Waouh ! Il me fait la surprise ! C'est génial ! Ils sont tous là ! Pourquoi est-ce qu'on appelle ça une surprise, en Bretagne ? Ben parce que je ne savais pas qu'on allait me fêter mon anniversaire. Non, c'est pas ça, c'est bien plus fort que ça. C'est bien plus fort que ça. Si c'était qu'une surprise parce que je ne savais pas qu'on allait me faire ma fête d'anniversaire, n'importe quelle autre surprise nous aurait réveillé en nous une telle émotion. Ici, ça réveille une émotion qui est extrêmement forte. Pourquoi ? Parce que ma sensation naturelle est de sentir que personne ne pense à moi. Ce qui est faux, que personne ne m'aime à la limite. Et d'un seul coup, la surprise, ils sont tous là. Ils ont tous pensé à moi. Ils m'aiment tous. C'est génial. Et l'année prochaine, on lui fait la surprise, il est encore surpris. Mais je comprends pas, tu ne te rappelles pas l'année dernière ? L'année dernière, on t'avait déjà montré qu'on t'aimait. La preuve, on t'a fait une super fête. Eh ben non, il est encore surpris. Pourquoi il est encore surpris ? Parce qu'on a cette tendance inhérente chez l'être humain qui revient, cette sensation d'être seul, cette sensation de ne pas être aimé, cette sensation qu'en fait, chacun pense à soi et personne ne pense à moi. Ce qui n'est pas toujours vrai, ça peut être vrai dans une certaine mesure. C'est vrai qu'on n'est pas forcément aimé par tout le monde, d'accord ? Il faut apprendre à vivre avec cela, mais la sensation, elle est, on peut dire que de façon générale, elle est vraiment déformée. C'est la raison pour laquelle, pour les parents qui donc, m'écoutent et qui n'arrivent pas trop à comprendre pourquoi c'est tellement important de démontrer tellement l'amour et l'affection alors qu'eux, ils aiment leurs enfants, ils se sacrifient pour leurs enfants, je crois qu'ici, on a déjà donné une réponse qui est assez forte, qui est assez puissante. La deuxième raison, c'est une raison qui est tout à fait caractéristique à la société moderne. C'est-à-dire qu'il y a, dans l'ancienne génération, il n'y avait pas une telle nécessité. Et la raison est très simple. Nous vivons dans une société qui a créé des nouveaux besoins. Et ces nouveaux besoins, on ne peut pas nager contre courant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément tous payer. Mais si on ne se paye pas un minimum de ce que les autres ont, eh ben on se sent mesquin. Et il n'y a rien à faire, on doit vivre avec son temps. À cause de cela, la femme est sortie travailler. La femme, qu'est-ce qu'elle faisait dans les générations futures, dans les générations passées, à l'époque de la petite maison dans la prairie, j'aimais beaucoup ce feuilleton, d'accord, où tout était simple, où tout était naturel. La maman, elle était à la maison, le papa, il allait travailler, d'accord. Et la maman, quand elle était à la maison, eh ben, qu'est-ce qu'elle faisait? Eh ben, donner de l'amour, elle donnait l'affection à ses enfants, elle s'occupait de ses enfants. Aujourd'hui, la société moderne a poussé la femme à aller travailler. Parce que si on veut se payer toutes les belles choses qu'on voit dans les boutiques, dans les magasins, c'est pas possible, ça suffit plus avec une paye. On peut plus se contenter du strict minimum. Et du coup, ben, les enfants, ben, ils ont moins d'amour d'affection. Je ne dis pas à qu'on peut nager à contre-courant et vivre contre son temps et dire à la femme, non, il faut rester à la maison, on va vivre maintenant dans le tsimtsum, quand à l'époque de la petite maison de la prairie, d'accord, et la maman, elle va donner beaucoup d'amour et d'affection à ses enfants. Si on peut le faire, parce que le papa, il gagne suffisamment d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille, et aujourd'hui, les besoins, ils sont beaucoup plus grands, beaucoup plus hauts que ce qu'ils étaient à l'époque, alors pourquoi pas? Mais si on ne peut pas le faire, il n'y a rien à faire. On doit vivre avec son temps et rien à faire. Donc, en fait, ça, c'est déjà une raison qui fait qu'on doit démultiplier les démonstrations d'amour et d'affection parce que, normal, d'après, en fait, si vous voulez, la structure de la cellule familiale au jour d'aujourd'hui dans la société moderne, bah, l'enfant, il est beaucoup moins avec sa mère. L'enfant, il est beaucoup moins avec son père. Bon, le père, ça a toujours été comme ça parce que le père, il est au travail. Mais la mère, à l'époque, elle était à la maison, elle était avec ses enfants, elle donnait de l'amour à ses enfants, elle écoutait ses enfants, elle leur donnait de l'attention, elle faisait des choses avec eux. Aujourd'hui, la maman, quand elle est rentrée après une journée de travail éreintante, elle n'a qu'une seule envie, mettre ses enfants devant un dessin animé et qui s'endorme le plus vite possible pour qu'elle puisse se reposer. Elle n'a plus les nerfs, elle n'a plus les forces, on peut la comprendre, ce n'est pas un reproche. Mais c'est un fait qui, en fait, nous pousse à dire qu'il y a ici un véritable problème, il y a ici une véritable carence. Comment régler le problème? On va répondre à la question à la bouteille. Mes attachés, on fera un cours ultérieurement sur concrètement travaux pratiques. Alors, c'est quoi les solutions? Comment en fait démontrer cet amour et cette affection? On va faire un cours, mes attachés, sur les travaux pratiques. Il n'y a pas que le problème de la mère qui est partie travailler. Il y a aussi le problème du speed de la vie. Parce que cette société de consommation qui nous pousse à aller travailler, c'est pas seulement qu'elle nous pousse à aller travailler, elle nous pousse à aller travailler d'arrache-pied. Et elle nous pousse en fait à être tout le temps en découvert, tout le temps à faire des emprunts, des crédits, des trucs, d'accord? Parce qu'on veut acheter, on veut acheter. On avait déjà expliqué au cours, dans le cours passé que cette boulimie aussi d'acheter, c'était aussi des carences affectives. Donc, en fait, c'est un cercle vicieux. On a des carences affectives, donc on a besoin d'acheter. On achète, donc du coup, on doit travailler. On n'a plus de temps à passer avec nos enfants. Nos enfants, du coup, ils ont des carences affectives. Puis après, quand ils vont grandir, ils vont avoir des carences affectives, ils vont vouloir acheter. On n'en finit pas, d'accord? On va baisser les attachés, on va donner des solutions. Mais il y a aussi le problème de ce speed qui fait que, regardez la tête des gens dans la rue, ils ne sont pas souriants. Regardez la tête des gens chez eux à la maison, ils ne sont pas souriants parce qu'ils sont tout le temps stressés. Comment je paye ma note d'électricité? Comment je paye ma note de gaz? Comment je vais payer l'emprunt que j'ai fait pour acheter ma nouvelle voiture? Comment je vais faire pour payer l'emprunt de la maison, le loyer, etc., etc. Tous ces stress à bout, ils n'existaient pas dans les générations passées. Parce que dans les générations passées, on se contentait de beaucoup moins. Donc d'un côté, la société moderne, elle nous amène de l'avoir. Tu peux avoir plein de trucs, tu peux acheter plein de trucs, la technologie, le iPhone, la caméra, d'accord, qui me permet de vous faire court, c'est quand même pas mal, d'accord? Mais c'est au dépend de l'être. C'est-à-dire que toutes ces choses-là, pour se les payer, ben forcément, ça va être au dépend de l'être. Ça va être au dépend de tout ce que je peux donner à mes enfants, tout l'amour et l'affection que je peux donner à mes enfants. Et vous avez bien compris que c'est un ingrédient qui est essentiel pour la construction de l'être, quoi qu'il arrive. On n'est pas venu refaire le monde, mais seulement constater des phénomènes, constater en fait une situation dans laquelle il faut plus que jamais démontrer son amour et son affection à nos enfants, parce qu'en fait, la structure, la cellule familiale et la société moderne qui nous entoure est tout à fait défavorable. En plus de cela, le problème de la perception égocentrique de l'être humain. On en avait parlé quand on avait fait les cours sur la discipline. C'est que naturellement, l'enfant, et même l'être humain quand il va grandir, a une perception égocentrique du monde. Ce qu'il fait que, c'est très amusant, si vous rentrez dans une maison dans laquelle tout le monde fait une tête de Tisha B'Av, tout le monde fait une tête d'enterrement, si vous préférez, eh bien, vous n'allez pas être à l'aise dans cette maison. Bon, vous allez me dire, bon, c'est peut-être parce que si je rentre dans la maison et que je vois tout le monde faire la tête, ben, c'est peut-être parce que, je ne sais pas, je les dérange. Supposez maintenant que le maître de maison vient vous voir, et c'est quelqu'un de tout à fait honnête, c'est un très bon ami à vous, et vous dit, je t'assure que ça n'a rien à voir avec toi. C'est juste qu'on a pris une mauvaise nouvelle. Je vous garantis, Rabotaille, vous ne pouvez pas rester une minute dans cette maison. Au bout d'une minute, deux minutes, vous allez trouver une excuse, bon, j'ai un truc à faire, il faut que je parte. Mais non, reste encore. C'est vraiment pas contre toi. À partir du moment où je suis dans un environnement où je vois tout le monde qui fait la tête, inconsciemment, inéluctablement, je le prends pour moi. Et donc, je ne peux pas rester maintenant dans l'endroit où quelqu'un fait la tête. Il y a une histoire amusante là-dessus qui est racontée sur Rabbi Israël Misalanter. Donc, vous voyez que même les grands de la Torah, ils ne sont pas insensibles à ce phénomène. C'était une fois un Yehudi qui était venu pendant la période des Yamim Doraim, des jours redoutables, d'accord? Et ce Yehudi, il a une grande crainte du ciel, une grande Yirat Shamayim, et il était très stressé parce qu'il avait peur en fait de Rosh Hashanah, du jour du jugement, d'accord? Rabbi Israël Misalanter, à la fin de la tefila, gentiment, diplomatiquement, est venu le voir, lui a dit, écoute, en quoi moi je suis coupable du fait que toi t'es stressé parce que le jour du jugement arrive? Pourquoi est-ce que moi je dois supporter ton visage comme ça, stressé, amer, angoissé? Donc vous voyez que même Rabbi Israël Misalanter, alors peut-être qu'il n'avait pas vraiment pris pour lui, d'accord? Mais il voulait donner un moussard à ce Yehudi. Chazal nous enseigne, inversement, Amalbin, Shinav le Chavero et Tamashkeu Chalav, quelqu'un qui sourit à son prochain. Donc inversement, je souris maintenant à mon prochain. Même si lui, il sait que je ne souris pas forcément parce qu'il y a quelque chose chez lui qui me fait sourire. Je souris parce que je suis content. Je souris parce que j'ai gagné au loto. D'accord ? Vous rentrez maintenant dans une maison, inversement, où maintenant tout le monde est content, tout le monde sourit parce qu'ils ont gagné au loto. Vous savez que ça n'a rien à voir avec vous. Ben, vous êtes bien dans cette maison, vous avez envie de rester. À plus forte raison, Rabotai, quand on parle de notre maison, quand on parle de l'enfant qui est dans sa maison. Donc vous comprenez que, d'un point de vue associatif, bien que ça semble très curieux, le fait que la société moderne nous rentre dans un stress fait que, je vous assure que si vous mettez une caméra chez vous à la maison, vous verrez que la plupart du temps, vous faites une tête d'enterrement. Vous n'êtes pas du tout souriant. Eh bien, l'enfant, il se le prend en pleine face. L'enfant, il se le prend de façon égocentrique. C'est-à-dire qu'inconsciemment, l'enfant traduit, si maintenant papa, il n'est pas content, il fait la tête, ça veut dire qu'il n'est pas content d'être avec moi. Ça veut dire que je ne lui donne pas satisfaction. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'il va pouvoir exprimer, mais le phénomène, il est clair. Il se vérifie même chez les adultes. C'est Chazal nous dit que quand on sourit à son prochain, c'est bien plus que lui donner à boire du lait. Et le lait, le vrai lait, pour ceux qui connaissent le lait de ferme, non seulement ça désaltère, c'est comme de l'eau, mais en plus ça nourrit. Donc vous imaginez, c'est comme si vous l'avez donné à boire et vous l'avez nourri. C'est plus que ça encore, simplement lui sourire. Et même si la personne n'est pas convaincue que je suis en train de lui sourire parce que je lui démontre en cela de la considération ou quoi que ce soit d'autre. Simplement, je suis souriant. C'est quelque chose qui procure en fait à l'être humain, qui procure en fait à notre proche une sensation de bien-être qui est absolument extraordinaire. Dans ce sens-là, donc, aussi, Rabotai. vu que nous sommes dans une situation qui est dans une société, dans une ambiance qui est stressée, eh bien, en fait, l'enfant se le prend en pleine tête. Il va décrypter, il va en fait interpréter cela un petit peu comme un manque d'amour, comme une sensation que papa, il n'est pas content d'être avec moi. Dans ce sens-là, je pense qu'on l'a très, très bien démontré. Vous aimez vos enfants, c'est sûr et certain. Même vous vous sacrifiez pour vos enfants, c'est sûr et certain. Mais quand bien même, il est tout à fait indispensable de démontrer cet amour et cette affection de façon explicite, inconditionnelle et le plus que vous pouvez. Bezrat Hashem, le cours prochain, on verra un petit peu les travaux pratiques, comment faire cela. Baruch Adonai dans la Mamène, Vermeen.